Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier numéro d'Atari, l'émission de Criticat où l'on reviendra chaque mois sur un film ou sur un cinéaste. Avant de commencer cette première émission, je souhaitais quand même remercier les contributeurs et les contributrices qui ont permis de la financer lors d'une collecte l'an dernier. Pour ce premier numéro, on va débattre du film d'Api Chatpong Verastakul, Memoria, et pour cela je suis accompagné de Josué Morel et de Fabien Agege.
Bonjour Quentin.
Bonjour Quentin.
Alors le film a été présenté au dernier festival de Cannes et est actuellement en salle. Vous avez aussi une critique qui est disponible sur le site et une recension de l'ouvrage qui revient sur la fabrication de film que vous avez juste derrière moi. Pour résumer peut-être le film avant qu'on commence le débat, alors Memoria raconte l'histoire de Jessica, qui est une expatriée britannique, on le devine, c'est pas forcément explicite, qui déambule dans les rues de Bogota à la recherche d'un son qui l'a réveillée un matin et qui continue de la hanter. En parallèle de cette recherche, elle veille sur sa sœur qui est hospitalisée, et au cours du film, elle va rencontrer différents personnages qui vont l'aiguiller lors de sa recherche. Alors le premier constat qu'on peut faire, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Memoria change quelque chose au cinéma d'Api Chatpong Verastakul, étant donné, et c'est une précision qui est a priori importante, que c'est le premier film de Verastakul qui est tourné loin de la Thaïlande. C'est un film en langue espagnole et anglaise, avec un casting en plus assez improbable, a priori, où on retrouve Tilda Swinton et Jeanne Balibar notamment. Alors je me tourne vers toi, est-ce que le film change quelque chose au cinéma d'Api Chatpong Verastakul, et qu'est-ce qu'on peut penser de cette délocalisation qui est quand même assez frappante dès le départ?
Bah, il n'est pas impossible qu'elle donne une impulsion à l'espèce de décadrage qu'opère le film par rapport à l'esthétique de Verastakul, mais disons que moi j'ai l'impression que ça se joue avant tout sur des questions de mise en scène, que sur des questions de langue ou même sur des questions de territoire, puisqu'en fin de compte même on va revenir à la jungle qui est quand même un peu le décor archétypal du cinéma de Verastakul. Et avant même de parler d'espace, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions, et aussi de son naturellement à cause du sujet, je pense que le premier léger désaxage, si on peut dire les choses ainsi, se joue au niveau du temps. C'est quand même un cinéaste du temps à proprement parler, Verastakul. On se souvient, le premier film qu'il a vraiment révélé, bon dans les faits c'est son deuxième film qui est Blissfully Yours, il y avait notamment une scène de masturbation très longue près d'une rivière, d'une dizaine de minutes je crois à peu près. Là pareil, il y a une scène de sieste très longue, mais ce que je trouve intéressant c'est que traditionnellement, le temps, la déliquescence de l'action chez Verastakul est un vecteur déjà d'ouverture au monde, à l'invisible, un vecteur de porosité possible entre le réel et le monde invisible.
Donc il faut laisser du temps aux choses d'arriver, de t'apparaître.
Exactement. Etc. Et alors là, c'est évident, dès la première scène, il y a quelque chose de nouveau, il y a une inquiétude, il y a quelque chose qui s'ouvre, quelque chose presque d'un peu angoissé, alors que le cinéma de Verastakul, et d'ailleurs a été peut-être un peu trop caricaturé, un peu trop réduit à ça, est un cinéma, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais confortable, c'est-à-dire quelque chose de très agréable, même presque...
Accueillant
d'un point de vue sensoriel, et que là, au contraire, il y a quelque chose, alors moins dans la deuxième partie, mais dans la première, du moins dans sa partie urbaine, qui est un peu angoissant. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que là, pour le coup, il y a presque un changement de paradigme sur ce que ce rapport au temps implique. C'est que là encore, il y a une perméabilité qui est à proprement fantastique, puisque le film va jouer là-dessus aussi, c'est-à-dire tout le rapport au son, qu'on va détailler un peu après, je pense, dans la suite du débat. Participe d'une logique du débordement d'un monde invisible, enfin, d'un monde intérieur ou d'un monde primitif même, potentiellement.
C'est quelque chose qui me semble a toujours été là chez Verastakul, mais qui n'a pas été envisagé de cette façon-là, c'est-à-dire d'une manière un peu plus angoissée, un peu plus inquiète. En fait.
C'est-à-dire d'une certaine manière, on est passé d'un rapport presque du merveilleux, vraiment fantastique, où il y a une forme d'indécision, puisqu'il y a aussi l'idée potentiellement que le personnage pourrait être fou. C'est-à-dire le personnage entend des sons.
Bah, c'est ce qu'elle dit au moment.
C'est-à-dire, est-ce qu'il y a il n'y aurait pas, alors sauf peut-être un plan qu'on va pas forcément révéler, et encore que, il n'y aurait pas des choses à proprement surnaturelles dans le film.
Mais là-dessus, pour revenir aussi sur ta première question, moi j'ai l'impression que Memoria, là où il est légèrement différent des autres films d'Api Chatpong Verastakul, c'est qu'il prend un peu le chemin inverse, c'est-à-dire de la ville à la jungle et non pas de la jungle à la ville, et qu'en général, dans les films d'Api Chatpong Verastakul, on était avec des personnages qui souvent étaient conscients, et ça tu en parles aussi dans ta critique, qu'un autre monde ou que d'autres êtres était possible. Là, on commence quand même avec un personnage qui est littéralement réveillé par un son, et par un son qui peut évoquer en effet possiblement la folie, et donc possiblement aussi, moi j'ai l'impression, une peur proche de la peur de la mort. Il y a quelque chose dans les films d'Api Chatpong Verastakul dont on parle peu, mais c'est qu'en fait c'est un cinéaste qui a souvent des personnages qui sont en fait des personnages assez âgés. Et là, Tilda Swinton, elle n'est pas très âgée, mais c'est quand même une femme, disons, d'âge mûr.
Bah, elle est veuve, en fait, ça on peut le préciser déjà, donc elle a un rapport comme ça à la mort qui est assez immédiat. Alors, c'est précisé d'ailleurs dès la deuxième scène du film, quand elle rencontre un de ses collègues, je crois, dans une université où il parle, voilà, son mari est décédé, donc elle a un rapport comme ça de proximité avec le deuil. Et je pense que oui, il y a une forme aussi de. Peut-être de logique de compensation dans sa quête aussi par rapport à ça, il y a quelque chose qui manque, c'est quelque chose qui voilà, va pas arrêter de passer à travers des portes, voilà, il va passer entre différents mondes.
Bah c'est très clair ce que tu dis sur la scène en question, on apprend qu'elle est veuve, c'est qu'elle se tient vraiment au milieu d'un espace qui est cisaillé en deux par un pilier, ça c'est quelque chose qui structure tout le début du film.
Il y a une table ronde et il y a un pilier derrière elle.
Voilà, et puis il y a la vie, il y a des gens qui parlent, qui discutent, on est visiblement sur un espèce de campus ou du moins une place, donc il y a de la vie. Et elle se tient précisément entre deux mondes, deux strates. Bon, le film a vraiment cultivé ça. Mais donc, pour revenir sur ma question du temps, ce que je trouve intéressant, c'est que même si c'est à une échelle très locale, et que ça ne va pas être l'entièreté du film, quelque part, ce rapport au temps induit aussi autre chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on comprend ce qui se joue sur le son, il y a un principe quelque part de suspense, c'est-à-dire que ce son peut survenir à n'importe quel moment, et peut briser vraiment la tonalité de la scène, et qu'à la fois... Donc cette latence de l'action fait qu'on est dans une situation de suspense, mais qu'en même temps il y a une telle déliquescence de l'action qu'on finit presque par oublier que ce son peut advenir, et que pour le coup, Vera Stakul, ça je trouve ça assez étonnant quand même, et ça a été assez peu dit je trouve dans les critiques, notamment durant le Festival de Cannes, c'est qu'il y a presque un principe de direction de spectateur, à une échelle évidemment, bon on n'est pas chez Hitchcock ou chez Spielberg, mais il y a quand même cette logique de presque une partition rythmique qui va créer de l'effroi, qui va aussi jouer sur les attentes du spectateur.
Une volonté de créer des effets en tout cas.
Voilà et qui du moins me semble beaucoup, là qui pour le coup acte vraiment une forme de changement de paradigme dans le cinéma de Vera Stakul, et qui le mène... Alors, à une échelle, encore une fois, très presque infra, mais ce serait quelque part, ce qui a toujours eu un peu de manière sous-jacente dans ces films, ça serait quelque part un film d'horreur. Le film dessine en tout cas cette piste possible, peut-être moins dans la deuxième partie qu'on va ensuite décrire, qui serait un peu le contre-coup, en fin de compte, de cette partie très angoissée qui ouvre le film.
Mais juste pour rebondir sur ce que tu dis par rapport à la direction du spectateur, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'en général, on peut dire, c'est un terme un peu vague, mais que le cinéma de Vera Stakul aurait quelque chose de conceptuel, dans le sens où il travaille sur des narrations...
le générique au milieu du film, voilà, ce genre de choses, des narrations un peu binaires...
Exactement, à des narrations, disons, hybrides. Et là, ce qui se propose directement, j'ai l'impression, avec cette idée, je pense... Il faut bien le dire quand même, génial, d'un son, de nous connecter directement, de nous relier directement au personnage principal, donc de Jessica. Puisqu'au fond, qui entend ce son qui, comme tu dis, brise la continuité, crée de l'effroi, bah, seulement en un sens de personne, Jessica et nous, spectateurs. Et à partir de là, ça nous met dans une relation presque intime avec ce personnage, et les questionnements qu'elle va se poser... on se les pose aussi, ou en tout cas nous, le fait qu'on entende ce son fait qu'on va avoir des interprétations sur la continuité du récit.
Alors je suis d'accord, mais je mettrais quand même une petite objection, et peut-être si je me parle, donc il y a un semblant de débat quand même, sans faire semblant, mais c'est que je trouve qu'on réduit un peu trop le cinéma de Vera Stakul à sa dimension sensorielle, et c'est vrai que ce sont des films qui sont des bains de sensations à proprement parler, sonores, visuelles. Quelque chose qui se rapproche presque de l'état de l'hypnose ou de la sieste. Enfin, moi, pour parler vraiment
de quelque chose que Vera travaille beaucoup dans ses installations périphériques, ses films, où voilà, il y a des installations immersives, où on prend en charge. Voilà,
on ressort presque d'un songe un peu éveillé. C'est très agréable de ressortir d'ailleurs d'un film de Vera Stakul, presque davantage parce que tu connais l'entrée. Disons que par exemple, tu vois ce que tu dis sur le fait qu'en fait on ressent les sensations du personnage principal, c'est vrai, mais il faut bien dire quand même, et je trouve encore plus ce film-là, que c'est un cinéma du découpage. Je veux dire qu'il y a une manière aussi d'objectiver dans l'espace, dans l'arrière-plan, dans la construction des scènes.
Dans la composition, ouais, c'est ça.
Voilà, le sentiment intérieur du personnage. Alors, on a parlé de cette scène, notamment, je me souviens, à Cannes, sur la scène de mixage, qui est une scène clé. Il y a par exemple une idée assez géniale, c'est qu'en fin de compte, durant toute la première partie du film, quasiment tous les plans, le personnage de Jessica est redoublé dans l'arrière-plan par une ligne qui coupe l'espace en deux. Et qu'en gros, il y a un effet de perspective dans cette scène de mixage où en fait, elle passe d'un siège à un autre sans que l'échelle de cadre change, et qu'en gros, qu'elle passe en avançant dans l'espace, en fin de compte, elle ne se départit pas d'une ligne qui la cisaille dans l'arrière-plan, et que quand on trouve enfin le son, à la faveur d'un raccord dans le montage, en fait, elle va passer quelque part de l'autre ligne, et que trouver ce son la fait basculer vraiment dans une autre strate. Et que voilà, le film joue sur une stratégie vraiment d'espace, de découpage, de mise en scène, pour acter par un petit changement un petit décalage vraiment du personnage dans l'espace, tout d'un coup, nous faire ressentir ce que ça implique pour elle, vraiment de retrouver ce son qui la hante, qu'elle réussit à extérioriser. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez important, parce qu'on aurait presque une manière de réduire le cinéma de Verastakul à une forme de séance d'hypnose, quoi. Alors que pour moi, il y a quelque chose de... C'est pas d'ailleurs, on l'a pas dit, c'est un peu un élément de dossier de presse pour moi, mais que le personnage Jessica, dans le générique, s'appelle Jessica Holland, et donc c'est le même nom que le personnage principal de Voodoo, mais sur ça,
Voodoo déjà tourne,
il y aurait, a priori, sans forcer le trait non plus, mais à l'horizon, tourne rien. C'est-à-dire vraiment un cinéma de la découpe, pas classique évidemment, mais un cinéma de la découpe, et un cinéma qui aurait donc un versant fantastique qui passerait vraiment par une mise en espace.
Là, c'est vrai que moi, je voulais aborder un peu la première scène par rapport à ça, puisque il me semble que la première scène du film, donc qui j'ai vu le film plus tard, mais qui évoque un peu aussi Drive My Car, c'est un peu la même première
scène. Elle se réveille.
On en avait parlé. C'est très étonnant à Cannes de voir ces deux films sur une femme qui s'éveille et qui
voilà, dans la scène. Donc c'est d'abord un plan qu'on ne comprend pas bien. On comprend pas bien où on est, ce qu'on est en train de voir, etc. C'est dans une ambiance tamisée. Puis donc le son, puis ce corps qui se réveille, et ce corps qui se tend et qui est en ombre chinoise. On ne perçoit pas encore qui c'est. Et là, il se passe quelque chose, à mon avis, de très très surprenant et qui est un peu l'une des clés du film, c'est-à-dire que le personnage se lève et part vers la droite du cadre et la caméra s'autonomise et part vers la gauche du cadre. Et vers la gauche du cadre, qu'est-ce qu'on retrouve ? Elle à nouveau, mais via un reflet dans un miroir. Et en fait, à nouveau, cette ombre chinoise et qui, pour moi, évoque une sorte de double intérieur. Et donc à partir de là, le film pour moi est un peu posé, disons que je l'ai ressenti comme ça, et pourtant c'est très visuel, je dirais, il le figure de manière tout à fait parfaite, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un personnage qui serait coupé en deux, qui serait détaché de son soi intérieur.
Et ça c'est intéressant parce qu'à un moment du film aussi, au milieu du film, on a le personnage de Jessica qui va dans une espèce d'exposition de tableaux ou de photos, alors je sais pas trop bien ce que c'est, où on a des personnages qui sont littéralement coupés en deux par une ligne. Donc voilà, on a des personnages séparés, et il y a comme ça voilà, une forme de... évidemment de mise en abîme de la façon dont nous-mêmes nous regardons Jessica qui est scindée par des lignes, elle-même voit d'autres figures, il y a une forme de circulation déjà comme ça de la signification des images qui transparaît.
Et en tout cas, ça va vraiment plus loin, puisqu'il y a un plan d'ailleurs qu'on retrouve dans la bande-annonce, si je ne me trompe pas, où il y a une espèce de statue de Janus, coupé en deux visages. Bon, ça, le film presque donne quelque part clé en main son allégorie. Bon, c'est un plan comme ça fugace, c'est pas non plus appuyé, mais oui, c'est tout à fait, c'est vraiment un personnage coupé en deux, c'est ce que raconte vraiment toute la
partie. Et en tout cas, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'aussi, évidemment, on a beaucoup rapproché le cinéma de Verastakul à quelque chose d'un peu mystique, d'un peu inexplicable. Pour moi, c'est aussi une façon de simplement pas forcément parler de la précision de ces films. Qui pour moi là est encore plus frappante, à la limite si on pouvait avoir des doutes sur d'autres films, ça tenait aussi à mon sens à leur décor qui ne permettait pas forcément de dessiner ces lignes justement, ces triangles, ces formes un peu géométriques dans l'espace, hein, les surfaces sont très épurées, on est sous une forme d'expressionniste un peu presque brutaliste dans la façon dont la ville de Bogota est filmée avec ces espèces de grandes dalles de béton, ces vitres. Ce qu'on avait un peu dans Syndrome and Century, il me semble, avec cet hôpital.
Et la fin d'un club boumier aussi, qui est très rigoureuse.
Et voilà, et donc dans certains éléments, dans certains de ces films, je pense au centre commercial de Cemetery Splendor, qui était pareil, avec les lignes, mais c'était des passages où, quelque part, les personnages rentraient dans des environnements qui étaient à l'opposé de la jungle, et où Verastakul pouvait composer son cas de manière beaucoup plus travaillée. Là, il me semble que c'est quelque chose qui, justement, est le point de départ du film, mais qui, petit à petit, là, c'est pour ça que je pense qu'on peut commencer à introduire ce que le film travaille petit à petit, il y a une forme de progression, c'est pas juste un personnage qui est strié en deux. C'est aussi une forme de réunion, quoi, de complétion de ce personnage coupé en deux, qui passe, à mon avis, par un éloignement de la ville, qui est un peu aliénante, quoi, pour Verastakul, il me semble, au début.
Mais en même temps, pour la fois, poursuivre l'axe que tu dessines, et en même temps, revenir sur cette question un peu de... metteur en scène rigoureux contre magicien, pour aller un peu vite. Mais il est vrai que souvent, devant les films de Verastakul, on peut se poser une question qu'on se pose devant des blockbusters ou alors des films des années 50 d'aventure, mais comment ils ont fait ça ? Moi, par exemple, j'ai fait la réflexion devant l'ouverture, donc le Boumi sur le buffle. Comment on filme ça ? Comment on filme vraiment, comment on dirige un animal, presque, d'une certaine manière. Et c'est vrai que le film, pour le coup, est plus avare volontairement, et moi, ça m'intéresse, ce côté dépouillé, on va dire, un peu des tours de magie traditionnels. Alors, tu pourras peut-être parler du soleil. Voilà, il y a encore des bouts où on peut se dire, mais comment fait-il ça ? Comment c'est prévu, etc. qui relève un peu de l'ordre de la magie du cinéma, même si j'ai pas cette expression. Mais alors, pour poser un tout petit bémol, vraiment, hein, c'est pas pour amener du conflit, il y en a pas vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même intéressant qui m'a questionné en revoyant le film sur cette logique de suspense. C'est que j'aime beaucoup voir les films de Verastakul et j'aime revoir les films de Verastakul, mais il est vrai que... je me faisais la réflexion que c'est un cinéma qui implique quand même un peu une forme de virginité du spectateur, dans le sens où il y a quelque chose d'un petit peu magique la première fois qu'on les voit, et qu'on ne retrouve pas forcément la deuxième, peut-être justement parce que même si c'est un cinéaste là qui va vers quelque chose, même d'un point de vue très liminaire, près du suspense, on va dire, il y a quand même une forme de surprise, des effets plastiques dans la construction narrative, etc. Et il y a quand même c'est un peu un cinéma de la première fois. C'est vraiment pour poser un tout petit bémol potentiel.
Je suis d'accord, typiquement, on pourra peut-être même mettre les images. C'est la scène du dîner, donc le bouni, qui est une scène hyper importante pour ce qu'elle représente dans son cinéma, etc. Clairement, la première fois qu'on le voit, on se dit, bon, il y a déjà une première surimpression, un fantôme qui apparaît, il va pas y avoir un deuxième fantôme qui arrive, et là, il y a un deuxième fantôme qui arrive. Et la surprise vient du fait que, il s'assoit à table, le dîner continue, il poursuit son cours, et ça, c'est quelque chose évidemment qu'on retrouve pas la deuxième fois qu'on le voit. On sait très bien que la scène va aller dans cette direction.
Ce que je veux dire, c'était un faux bémol en fait. Oui, c'est que en revoyant aussi Memoria, c'est que c'est un film qui, je trouve, en effet, peut-être qu'on peut continuer là-dessus, qui confirme quelque chose qu'on pouvait déjà deviner dans le film précédent, mais que c'est un cinéaste très rigoureux. Moi, ce qui m'impressionne en fait à la revoyure, c'est moins tant le caractère magique ou un peu. Merveilleux du film, que son caractère extrêmement rigoureux, sa construction, la logique vraiment qui quitte sa découpe, y compris dans la deuxième partie qui est une partie plus véraciste et coulienne d'un point de vue classique.
Je trouve que les deux sont pas forcément antinomiques.
Non, tout à fait. Pour moi, c'est un dialogue. D'ailleurs, la deuxième partie est la continuité de la première, où on va sur un horizon qui serait plus merveilleux et où se concrétise un petit peu. Mais disons que c'est intéressant que sa deuxième partie, sans trop déflorer, qui se joue en fait vraiment sur juste un dialogue entre deux personnages dans un lieu. Plutôt en extérieur pour le coup, même s'il y a une partie ensuite dans la cabane de Hernan, c'est ça. Ouais. C'est que ça aussi, ça joue sur une surprise presque de la narration, puisque quand on voit la scène au début, on pourrait penser que c'est une escale, on pourrait penser que c'est une étape préalable à, en gros, la deuxième grande partie du film, alors qu'en fait, non.
Moi, j'ai l'impression que dans la construction narrative du film, justement, ça va dans ce sens-là, c'est-à-dire évidemment comme un étau qui se resserre.
Ouais.
On commence dans une forme de chaos urbain, malgré tout, et surtout avec cette idée d'un monde qui serait devenu complètement marchand, et ce qu'on retrouve aussi un peu à la fin de Oncle Boomy, et surtout d'un monde, et ça je trouve qu'il arrive à nous faire ressentir très fort, et à le dire aussi, c'est quelque chose dont les personnages parlent, qui auraient oublié. Donc la ville, c'est un peu le monde de l'oubli, et aussi de la disparition de la magie.
D'ailleurs, il y a des personnages qui oublient que Hernan, donc le jeune lisseur, était là, ils ne savent plus qui c'est, on ne sait pas trop si exactement il a vraiment existé ou si simplement il a été oublié.
Elle oublie aussi, quand elle est à table avec sa sœur, on lui parle de quelqu'un, il y a aussi une énorme confusion.
Elle oublie qu'il est encore vivant, je crois. Oui, il parle d'un docteur qui est déjà, que pour elle est déjà décédé, et en fait, il est toujours vivant.
Et donc à ce moment-là, on est plutôt sur la piste de est-ce que Jessica est folle, qui, heureusement, n'est pas vraiment suivi, je trouve. Et j'avais un peu peur de ça la première fois que je découvrais le film. Et il me semble que plus le film avance, plus Jessica confronte aussi ses peurs, disons, et c'est quelque chose qui revient aussi souvent dans son cinéma, à nos croyances. Et les croyances, ça passe par quoi? Ça passe par la science, l'archéologie, et aussi, à un moment donné, assez comique par ailleurs, la religion. Et en fait, chaque croyance va plus ou moins se briser, ne va pas répondre au mystère du bang originel.
Mais c'est intéressant qu'elle cherche la réponse à cette espèce d'origine du son dans différentes pistes comme ça qui sont pas forcément alors qui dessinent des ramifications comme ça dans le trajet qui sont pas forcément connectées entre elles. C'est vrai que on a un peu l'impression, et c'est pour ça, moi c'est le premier sentiment que j'ai eu dans le film, j'avais pas trop où ça allait. Quand on regarde Memoria, on met du temps avant de comprendre exactement ce qui se passe. Est-ce que, cette question de l'archéologie, cette question du tunnel, il y a un tunnel qui s'appelle la Linéa, qui est construit dans une montagne, etc., où on déterre comme ça des eaux très anciens. On a le personnage de Jeanne Balibar, on ne sait pas trop ce qu'il fait là pour l'instant. Il y a le personnage de la sœur, qui apparemment a été victime d'un sortilège. Elle aurait rencontré une tribu en Amazonie qui aurait...
Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même, à travers tout ça, à travers toutes ces pistes, l'idée de faire revenir un monde disparu. Et ce monde disparu qui pourrait être, en fait, le monde. Je ne sais pas comment le dire autrement. Mais à la fin du film, sans rien dévoiler, on a la sensation que le personnage est un peu rendu au monde. Et alors là-dessus, moi, c'est une hypothèse que je vous cache pas, je n'ai pas particulièrement fouillé. Mais il est certain que le bang, ou le bong, je ne sais pas comment dire, m'évoque aussi quelque chose de la méditation. C'est-à-dire le bong qu'on taperait avant de se mettre dans un état méditatif. Et qu'à la fin du film, il me semble que le personnage est... en tout cas, se rencontre déjà Hernan qui dit que lui Hernando, excusez-moi, qui dit que lui,
donc le villageois, qui est le village du Pijao, de voilà, Pijao,
villageois qui rencontre par pur hasard, et l'une des premières choses qu'il lui dit, c'est qu'il se rappelle de tout. Or, on évoque beaucoup l'oubli au début. Puis, il se passe autre chose. Et dans ma très courte recherche sur le bouddhisme, j'ai découvert que l'un des buts du bouddhisme, c'est l'éveil. Et le principe de l'éveil, c'est de se réveiller du cauchemar permanent des renaissances successives. Et de l'oubli des renaissances successives.
Que t'es un peu le cas, donc le bouddhi, j'imagine. Hein, enfin, voilà.
Voilà. Et là, j'ai l'impression que le film, donc, on ne sait pas vraiment vers quoi il va, mais connaissant un peu le cinéma de Vedrasita Cool, j'avais quand même la sensation, à travers cette histoire d'oubli, de passé, de tunnel, d'archéologie, en fait, de ces choses un peu déliées, qu'on retournait vers un savoir ancien, quelque chose d'une sagesse oubliée. Et le film répond à ça, alors là, de manière un peu diverse, moi, je trouve.
L'idée, je pense, c'est que évidemment de suivre ce personnage qui va prendre différents chemins, qui va, voilà, comme ça, disons, faire la synthèse à la fin. C'est vraiment voilà, cette idée que on va faire la synthèse de tous ces éléments-là qui sont séparés. Et je pense que si on revient sur cette idée de ligne et de fantastique et de cette idée de film qui voilà montre une sorte de cassure, quoi, quelque chose qui est fracturé, quelque chose qui est séparé, va répondre d'une manière assez émouvante en fait à la fin, c'est-à-dire
c'est une sorte
de réunion en fait simplement. Toutes les mains qu'on enlève de la sœur qui est hospitalisée, tout voilà cette
oui,
sorte de déconnexion.
Le film est beaucoup moins dans le toucher, dans
la plasticité,
exactement. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, on ne peut s'empêcher. Je dis quand même, vraiment, c'est pas pour chercher des défauts au film. Hein. Je suis pas sûr que ce soit le bon film pour commencer Vedrasita Cool, parce que je pense que c'est un film qui joue, pour exemple, ce que tu expliquais sur le réveil, le sommeil. Il est vrai que, déjà, chose qu'on n'a pas dit, chose évidente, hein, si on veut vraiment partir de choses très concrètes, le film s'ouvre sur un personnage qui se réveille, alors que précisément, on voit généralement l'inverse dans les films de Vedrasita Cool. On voit des gens qui s'endorment et qui s'endorment pour se réveiller. Alors, il y aurait presque la dynamique inverse, c'est qu'on s'éveille pour s'endormir, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on s'éveille dans un espèce de cauchemar pour retrouver un espace où on va pouvoir dormir dans la nature, remonter par une logique hypnotique, presque aux origines d'une mémoire de vie antérieure, là encore, potentiellement, voire même quelque chose qui serait extra-humain, extraterrestre, voilà. Et sur cette logique-là, voilà, d'une certaine manière, le film, c'est très intéressant, c'est à peu près la même logique que sur l'inversion, Vigin, etc. Il y aurait une manière de faire du Vedrasita Cool, mais en partant exactement par le chemin inverse. mais je pense quand même que, même si j'aime beaucoup la deuxième partie, que ce qu'il y a de plus singulier dans le film, je suis quand même dans cette espèce d'angoisse. C'est-à-dire, c'est quelque chose de nouveau chez Vedrasita Cool. Qui pouvait parler ici et là, dans la part aussi politique, qui a été relativement commentée.
Le dernier plan de Cemetery of Splendor, par exemple, c'est voilà, un personnage qui regarde les yeux fixes devant elle, alors qu'il y a des espèces de grands chantiers derrière. Ouais. On sentait déjà quelque chose d'un peu inquiet dans son cinéma. Ouais.
Mais c'est vrai, par exemple, il n'y a plus, par exemple, le côté un peu enjoué, même pop, musical, qu'il pouvait y avoir dans les précédents films.
Si,
c'est cool. Oui, quelque chose de secrètement éléments, un peu comique, ou le côté beaucoup plus joueur, je pense aussi à Blissful Years et ce film qui était là encore. Mais déjà, en fait, il y avait quelque chose déjà. C'était intéressant parce que le côté angoissé, en fin de compte, passait dans les premiers films de Vedrasita Cool par son côté morbide au sens premier, c'est-à-dire que c'était des films volontairement malades. Hein, dans Blissful Years, le personnage principal avait une maladie de peau et le film lui-même était en lambeaux avec des inscriptions, un générique qui arrivait au bout de trois quarts d'heure. Enfin, voilà, il y avait une façon de jouer là-dessus.
De fièvre dans Tropical Malady.
Exactement, ça a toujours joué là-dessus. Et puis même le côté malade dans Oncle Boomy, hein, avec l'urine qui s'écoulait, etc. Ouais, mais voilà, ça a toujours été là. Mais disons que là, ça s'inscrit dans une forme d'inquiétude qui est un peu nouvelle. Et qui participe, je pense, d'une. Alors, on revient presque au point d'origine de ce débat, hein, qui est peut-être que le point de départ serait cette délocalisation un petit peu forcée aussi, hein, ouais, de Vedrasita Cool, de ce changement de cadre, de ce changement aussi de registre. On pouvait s'inquiéter du fait que Tilda Swinton soit là, et que tout ça participe d'une forme de dès la scène d'ouverture, de. Je comprends par exemple que certains admirateurs de Vedrasita Cool se retrouvent moins dans ce film-là, qui était un film un peu moins immédiatement, du moins dans un premier temps, chaleureux, accueillant, mais qui me semble, en fin de compte, complètement emblématique de ce qu'il fait, et qui, à mon sens, à la fois poursuit le même horizon tout en se renouvelant on va dire ça sur cette sur ce vernis-là
de son. Je pense qu'il prolonge un peu ce qu'il faisait avec ses autres films, mais que cette délocalisation, elle n'est pas traitée littéralement, mais elle infuse comme ça les légers changements qu'on va retrouver dans la forme, dans les scènes, dans les thématiques qui sont abordées à la limite. Et c'est vrai que on a l'impression que le film, à un moment, alors on a quelques plans comme ça sur la junte militaire qui prennent des routes, qui surveille les routes, c'est très succinct, un peu comme Oncle Bunmi, hein, qu'on avait ces espèces de cette séquence en photographie, en image fixe. Et c'est vrai qu'on retrouve alors cette espèce d'angoisse, notamment à la fin du film en fait. Alors c'est intéressant parce qu'on est en train de dire que la fin du film est une logique d'harmonie, de réunion avec quelque chose qui était brisé. Et j'ai l'impression aussi que
c'est Michel aussi. Hein.
Voilà, que cette logique-là, et le personnage est bouleversé parce qu'il lui arrive. On ne sait pas en bien ou en mal, c'est pas la question en fait. Elle est en train de prendre conscience de toute la mémoire du monde, mais la mémoire aussi dans ce cas-là de terrible en fait, quelque part de très pesant, de très douloureux. On a l'impression aussi que quand le personnage d'Hernan, donc à la fin du film, lui raconte les souvenirs qu'il n'arrive pas à oublier, il y a aussi des souvenirs douloureux, une histoire de vol ou quelque chose d'agression en fait. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui à la fin du film me semble assez voilà, assez bouleversant, c'est-à-dire de voir à quel point Barstakoul aussi prenait en charge l'inquiétude profonde que ça pouvait être que de garder en mémoire les choses. C'est ce que tu disais tout à l'heure, le cinéma de Barstakoul essaie de compenser une forme d'amnésie. Mais en même temps, ça a quelque chose de presque de terrible.
D'une ouverture et une chaleur, oui.
Ouais, oui, c'est ça. Et doublé aussi, quand même, de, en général, l'inquiétude, j'ai l'impression d'être une partie consciente du monde et du mystère du monde. Parce qu'il y a un plan, donc un peu secret, qu'on ne va pas révéler, dont tu parles aussi dans ton papier, mais qui pour moi m'a fait directement écho à quelque chose comme la fin de 2001. C'est-à-dire l'idée que...
Au début.
Au début, c'est vrai.
C'est-à-dire que il y a une beauté dans le mystère, quelque chose de plus grand que soi, mais aussi quelque chose de terrifiant. C'est-à-dire on sait qu'on ne sait pas. Et c'est assez rare, en fait, d'éprouver ça au cinéma. Moi, ça fait très longtemps que je n'avais pas éprouvé ça.
Moi, je suis d'accord aussi.
Mais moi, je trouve intéressant dans ce plan-là, alors pour dire, résumer, parce que à la fois, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, même si on sait, l'intérêt de voir cette vidéo, de voir ce débat sans avoir le film, est relativement...
Limité.
Non, pas limité, mais voilà, discutable, de certaine manière, parce que c'est vrai qu'on peut-être on révèle des choses qui sont de l'ordre de la surprise, du coup, c'est pas très grave. moi, je peux continuer. C'est que, on va dire que c'est un peu le plan sensationnel du film, le plan un peu le plus spectaculaire, enfin, c'est un peu la vision, la seule vision réelle du film. Et en même temps, pour moi, le plan m'intéresse moins en soi que ce qu'il produit, c'est-à-dire, à proprement parler, une détonation, et que le reste du film, qui est quand même une série de minutes, de plans à la fin, va être la conséquence. La digestion presque de ce plan-là, mais même presque des échos très étranges. Il y a presque un écho enfin, une forme de conclusion narrative par un bruit. On entend la voix de Jeanne Balibar qui presque
une certaine manière qui parle d'un séisme, etc.
Voilà, qui donne presque une forme de réponse un peu logique à la fin du récit, etc.
Une réponse très prosaïque en fait.
Exactement, une forme de prosaïsme, mais qui est en arrière-fond un peu en bruit de radio. C'est très étrange, mais voilà, c'est un peu le côté. Barstakoul boucle son scénario mais par des bruits de radio, et sinon on n'a que des plans de ciel, de déchirure, c'est-à-dire vraiment une ouverture vers l'au-delà, quelque chose de très métaphysique, qui n'est pas nouveau dans son cinéma mais qui je trouve atteint un point d'épure assez inédit. On en revient un peu à ce qu'on disait au début aussi, c'est que c'est un film, en fin de compte, c'est du Barstakoul un peu à l'os. Pour moi c'est moins tant un bouleversement qu'il a aussi, il arrive à faire beaucoup avec très peu, c'est-à-dire il remplace des visions de fantômes, de spectre par un bruit, une détonation qui vient 3-4 fois dans le film. Il n'a plus besoin que d'un plan, un plan unique de surnaturel.
Il y a très peu de plans dans le film, voilà. D'ailleurs, ça nous a marqué.
Il a d'une certaine manière, et je veux dire quand même, toute la deuxième partie, ce ne sont que des gens qui parlent dans l'herbe, d'une certaine manière. On écaille un poisson, c'est un peu la seule action réelle, et on boit un peu d'alcool, enfin voilà. Mais il y a quand même chose d'hyper minimaliste. Il y a toujours au fond chez Barstakoul, même dans Oncle Bunmi, on traversait la jungle, il y avait ces espèces d'hommes Chewbacca, il y avait la plongée dans la grotte, donc quelque chose quand même qui était encore. Il y avait encore quelque chose de symbolique, il y avait encore quelque chose, il y avait le rapport à la nuit, etc. Là, le film est quand même beaucoup plus, même la partie en deux, d'une certaine manière, elle est géographique, mais elle n'est pas marquée, elle n'est pas appuyée.
Voilà. Générique,
plus que jamais, moi je trouve qu'il travaille d'un point de vue rythmiquement quelque chose proche de cinéastes comme Godard ou Ackerman, c'est-à-dire quand est-ce que la rupture va apparaître. C'est-à-dire qu'il y a une tension dans certains
mais
plans.
Il fait durer le plan. Enfin, c'est pas la même chose que chez Godard. Godard, c'est qu'il y a beaucoup de cuts, de rupture de l'action, alors que c'est plutôt un délitement de l'action.
Exactement.
Il y a peu de choses qui sont coupées en pleine action. Quoi.
Exactement.
Il fait durer les scènes.
Et avec cette idée qu'on ne sait plus quand est-ce que la coupe va apparaître. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans la scène donc, où elle rencontre le villageois, et comme tu le précisais, On ne s'attend pas à ce que l'action s'arrête à ce moment-là. On ne s'attend pas à ce que l'action se délite à ce point-là. Et pour moi, on est quand même dans la scène de passage vraiment vers un surnaturel plus assumé, puisque tu dis beaucoup que le personnage dort, mais on ne sait pas vraiment s'il dort.
Oui, il dort les yeux ouverts.
Il a un doute.
S'il dort ou s'il est capable de
mourir. On revient aux zombies.
Oui, d'une certaine manière, c'est là le côté.
Mais... Tout à fait. Et puis il y a cette scène de lumière aussi. Donc,
Oui, voilà. Donc à un moment, le personnage, cette scène-là, qui est en fait un peu la réponse, disons, le double, disons, de la scène de la salle de mixage, hein, avec un Hernan plus jeune. Quand vous verrez le film, vous comprendrez assez vite. Mais c'est vrai qu'à un moment, voilà, le personnage d'Hernan lui raconte qu'il a toute la mémoire, etc., qu'il voit dans le passé, qu'il a l'impression de voir aussi dans l'avenir. Mmh. Et il lui dit, voilà, le soleil va frapper cette colline dans 2 minutes. Le plan, on a l'impression que le plan dure longtemps exprès pour voir ce rayon de soleil apparaître effectivement. Et c'est vrai que le rayon de soleil finit par apparaître. Et là, il y a comme ça quelque chose qui est à la fois de l'ordre d'une précision rythmique. Et donc là, je suis d'accord pour dire que c'est un des films les plus précis, enfin de Dobra Sacco les plus précis à ce niveau-là. Et voilà, ça n'empêche pas quelques épiphanies comme ça d'apparaître.
Et en même temps, c'est une épiphanie discrète, puisqu'on ne va pas avoir un contre-champ sur la montagne, c'est-à-dire qu'on va avoir un changement de lumière dans le plan. Mm. Et par ailleurs, il ne le dit pas comme un magicien, il le dit comme quelqu'un qui dirait, un paysan
oui,
qui dirait, il va pleuvoir ce soir, d'une certaine manière.
Oui, oui,
c'est un peu le même niveau de prosaïsme. Voilà, de... Ouais.
Et ça,
c'est vrai.
Et il y a toujours ce lien qui est fait entre eux aussi. Voilà.
Et là, ça m'intéresse aussi que Dobra Sacco perfectionne en un sens des choses qu'il a déjà travaillées, notamment dans son court-métrage Blue qui est disponible sur YouTube, sur l'hypnose. Moi, je trouve que quand même, je m'attendais un peu quand même à ce qu'il y ait un moment comme ça dans le film, c'est-à-dire un moment de décrochage où en fait, on n'a plus du tout de notion du temps. D'ailleurs, c'est un film, moi, les deux fois où je l'ai vu,
qui dure donc 2h12 ou 15.
Ce que je trouve très curieux, c'est que je ne sais jamais à combien de temps de film je suis.
Oui, c'est vrai.
Je n'arriverai pas à dire, on est à 40 minutes, à 1 heure. La sensation de la durée est complètement bouleversée.
Alors en fait, il y a très peu de scènes. On peut vraiment compter les scènes du film sur les doigts de deux mains, vraiment.
Et là-dessus, c'est ça qui est très beau aussi, c'est que ce dont je suis certain, c'est que c'est un film assez inoubliable.
Ça ressemble à une bonne conclusion.
Non, je suis d'accord aussi. Si vous avez
votre avis,
je crois qu'on peut conclure là-dessus. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débat et merci Josué et merci Fabien d'avoir participé à ce débat. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode d'Atari. J'en profite pour remercier Étienne et Hugo qui sont derrière les caméras pour la réalisation de cette émission.
Merci à eux.
Et on se retrouve le mois prochain. À bientôt.